Emmanuel Bovin. Est-ce un mensonge ? Lorsque 10 heures sonnèrent, M. Marjan commença à avoir quelques inquiétudes. Pour la troisième fois, il appela la bonne. « Enfin, Irène, madame ne vous a rien dit ?»«
Je vous assure que non, monsieur. » »«
Vous l'avez vue sortir ? Comment était-elle habillée ? Avait-elle son sac à main dedans ?» M. Marjan avait remarqué que lorsqu'elle se rendait chez des amis ou allait au théâtre, sa femme prenait de préférence ce sac à main aux autres.
« Je n'ai pas vu madame sortir. »
Une fois seul, Robert Marjan arpenta durant quelques minutes le salon, puis se rendit dans la chambre de sa femme. Tout était fermé à clé. Il n'avait jamais pu obtenir d'elle de laisser les meubles ouverts quand elle sortait.
« Je n'ai pas besoin que les domestiques lisent les lettres que tu m'écrivais. Cela ne regarde personne, »
répondait-elle quand il disait « Quelle drôle d'habitude que tu as de tout fermer ainsi !» Et c'était en vain qu'il lui faisait remarquer qu'Irène était illettrée. Les tiroirs qu'il put ouvrir ne contenaient que des objets insignifiants. Il resta un instant dans la pièce, cherchant des yeux quelque chose d'anormal, puis, retournant au salon, s'assit dans un fauteuil. Robert Marjan était de petite taille et très bien proportionné. Voûté, difforme, c'eût été un disgracié dont l'intelligence eût peut-être été étonnante, tandis que petit et bien fait, c'était un homme très susceptible dont la misanthropie tournait à la neurasthénie. Quand on lui demandait son âge, il répondait, comme ces gens qui affectent de ne pas savoir où ils en sont de leur existence, « Je suis né en 74. Calculé. » Mais il ne laissait pas le temps d'obéir à cette invitation, car tout de suite, il amenait la conversation sur un autre terrain. Enfant unique de riches commerçants, il avait grandi, entouré d'une multitude de soins, d'attentions, si bien qu'arrivé à sa majorité, il n'avait eu de la vie en général qu'une idée très vague. Jusqu'aux dernières années de l'âge mûr, il avait rêvé et il gardait ce rêve aussi caché qu'un adolescent ses connaissances en amour, d'une femme qui ressemblât à quelque artiste, de voyage, de vie mondaine. Lorsqu'il atteignit sa 50e année, une sorte de revirement s'opéra en lui. Ses parents étaient morts. Ses entreprises commerciales marchaient par la force acquise. Il voulut vivre. Comme si l'audace lui était venue avec l'âge, il décida de se rapprocher, mais à sa manière, c'est-à-dire tout doucement, de ce qui, depuis des années, lui semblait être son idéal. Il avait d'innombrables heures de loisirs. Ce fut au cours de l'une d'elles qu'il fit la connaissance d'une jeune femme, Claire Paoli, fille d'un ingénieur. Elle était si belle qu'elle ne tarda pas à se confondre dans son esprit avec la femme que toute sa vie il avait rêvé d'épouser. Quelques années auparavant, Claire avait quitté sa famille pour suivre un jeune homme qui venait d'achever ses études de médecine, mais à qui manquaient les fonds pour fonder un cabinet. Tous deux avaient vécu 3 ans durant dans un hôtel de la rue Gay-Lussac, de quelques leçons particulières données à des garçonnets habitant toujours à l'autre bout de Paris. Puis ils s'étaient séparés et M. Paoli avait repris sa fille, pour le seul plaisir, on eût dit, de l'accabler journellement de reproches. Aussi, quand M. Marjan proposa à Claire de l'épouser, accepta-t-elle aussitôt. À partir de ce moment, Robert Marjan vécut comme dans un rêve. Il ne savait que faire pour rendre sa femme heureuse. Il avait pour elle 1000 attentions. Ce n'était pas celle d'un homme sur le déclin qui, pour continuer de plaire, use de son expérience, mais celle de sa jeunesse perdue, celle qu'il n'avait encore eue pour personne. Claire, de son côté, s'attachait à lui. Chaque jour, elle l'égayait par des plaisanteries, lui donnait sérieusement des conseils auxquels elle ne croyait pas et qui, à quelques heures d'intervalle, n'étaient plus les mêmes. Elle avait été tellement malmenée par l'étudiant en médecine, par ses parents, que toutes les prévenances de son mari lui étaient douces et qu'aucune fierté ne l'amenait à les repousser.
elle entendait néanmoins garder une certaine indépendance. Elle avait exigé d'avoir sa chambre à elle. Elle se refusait toujours à donner la moindre explication sur l'emploi de son temps. Le déjeuner à peine achevé, elle sortait et ne reparaissait plus qu'à l'heure du dîner. Ce soir-là, cependant, pour la première fois, M. Barjane l'avait attendu en vain. À tout moment, il s'était mis à la fenêtre avec l'espoir de la voir descendre d'un taxi arrêté devant la maison. Parfois, il était même sorti pour être plus vite à son côté quand elle arriverait. Puis, tout à coup, craignant qu'elle ne fût entrée sans qu'il l'eût vue, il remontait à la hâte et, dans l'appartement vide, se retrouvait devant la table mise, couverte de la nappe d'une blancheur glaciale. Le temps avait passé ainsi, peu à peu. 10 heures avaient sonné et Claire n'était toujours pas rentrée. Après être resté plusieurs minutes à rêvasser, Robert Marjane se leva de nouveau. Il demeura un instant immobile. Que pouvait-il faire ? Marcher de long en large, s'asseoir encore, sortir et se promener de nouveau devant la maison, se pencher à la fenêtre. Mais en quoi cela eût-il rapproché l'arrivée de sa femme ? Il était à cet instant le plus douloureux de l'anxiété, celui où, parce qu'elle a trop duré, l'esprit lassé cherche des explications, commence à vouloir raisonner et, comme il n'y a rien à faire, finit par s'en prendre à soi. « Je suis trop nerveux », pensa Robert Marjane. « C'est ridicule de se faire du mauvais sang à ce point. Elle a été retenue. » Pourquoi chercher d'abord le mal ? Tout cela paraît très compliqué, mais je suis sûr que tout est très simple. Naturellement, puisque je suis seul, toutes les suppositions que l'on peut faire, je les fais. Seule, la vérité m'échappe. En ce moment, je n'ai pas plus de raison de pencher pour le mal que pour le bien. Elle a été retenue. Cela est certain. Tout le reste n'est qu'imagination. Mais tout de même, elle aurait pu trouver une minute pour me téléphoner. À la supposition que son appareil ne marchait peut-être pas, M. Marjane se réjouit d'avoir à le vérifier, cependant que, confusément, il songeait qu'il allait gagner ainsi quelques minutes. À pas lents, il se rendit dans son nouveau bureau. Puis, toujours pour laisser cette occupation devant lui et parce qu'il avait l'intention secrète d'en trouver une autre, il fit à plusieurs reprises dans la pièce la lumière et l'obscurité, tout en tâchant de se persuader que le commutateur fonctionnait mal. Mais il eut beau le tourner en tous sens, il obéissait. Finalement, Robert Marjane s'assit devant l'appareil téléphonique. « On va bien voir s'il marche, » pensa-t-il. « À qui pourrais-je téléphoner ? Au Bertrand ? Claire est peut-être chez eux, après tout. » Mais, à la pensée qu'en cette éventualité, elle lui ferait une scène à son retour, et qu'au cas contraire, il était impoli de déranger si tard des amis pour leur demander simplement si son appareil fonctionnait, il s'abstint. Le mieux, c'est de téléphoner au central. Il décrocha le récepteur et pria la téléphoniste de l'appeler dans quelques minutes afin de s'assurer du bon fonctionnement de la ligne. Un instant après, la sonnerie retentit. Bien qu'il fût certain que c'était l'employé du central, il ressentit une violente émotion. Comme il venait de retourner à la salle à manger, il aperçut soudain sur la cheminée l'horloge. Elle marquait 11 heures moins quelques minutes. Alors il lui apparut d'un seul coup qu'il y avait déjà 4 longues heures que Claire aurait dû être rentrée. Le malaise dans lequel il se trouvait se transforma brusquement en une vive douleur. On était en pleine nuit. Tout ce qu'une telle absence pouvait laisser supposer envahit son esprit. « Elle doit avoir un amant, » pensa-t-il. « Elle est près de lui en ce moment. Il ne veut pas la laisser partir. Elle n'a pas la force de le quitter. Si c'était un accident, on m'aurait prévenu. Il est inutile d'avoir beaucoup de bon sens pour deviner la vérité. Elle est chez lui. Il ne dorme pas encore. Il parle, il rit. La pensée que Claire le trompait, cependant qu'il attendait, ne le quitta plus. Pourtant, il voulait encore espérer qu'elle allait rentrer d'un instant à l'autre. Mais minuit sonna, puis 1 heure du matin. Robert Marjane était méconnaissable. Après avoir cherché des couvertures, il alluma toutes les lumières du salon, s'assit dans le fauteuil le plus bas, puis se couvrit les jambes. De temps en temps, il entendait les petites horloges de l'appartement. Toujours les mêmes réflexions se succédaient dans son esprit. Puis le jour se leva. Robert Marjane quitta son fauteuil. Il avait somnolé, comme au cours d'un voyage, hanté par des cauchemars dans lesquels Claire avait évolué, tantôt sous les apparences d'une femme prise de boisson et insolente, tantôt sous celle d'une épouse repentie, adjurant son mari de lui pardonner. Il ouvrit la fenêtre. Le ciel était d'un gris d'eau limoneuse. Les arbres dénudés du boulevard Raspail, qui avaient à peine une vingtaine d'années, n'atteignaient que la hauteur d'un deuxième étage. Un vent d'est chargé de pluie les agitait, et de les voir se balancer ainsi dans le boulevard désert, cela avait quelque chose d'infiniment triste. M. Marjane ferma la fenêtre. Les lumières de l'aube et du lustre s'étaient fondues et ne formaient plus qu'une clarté pâle qui emplissait le salon d'un jour étrange. Il était 7 heures du matin. Comme il s'apprêtait à pénétrer dans la salle à manger, il se trouva tout à coup en face de sa femme qui venait de rentrer et qui, avant de le rejoindre, avait gagné aussitôt sa chambre, sans doute pour se familiariser avec son intérieur avant de revoir son mari. Elle avait déjà ôté son chapeau et son manteau. Elle sourit et dit « Je viens de voir que tu ne t'es pas couché. Il fallait te coucher. Enfin, ce n'est pas parce que j'ai été retenue qu'il faut te faire tellement de soucis. Tu sais bien que s'il y avait eu quelque chose de grave, je ne t'aurais pas laissé comme cela, je t'aurais naturellement téléphoné. Puisque je ne t'ai pas téléphoné, c'est que tout était très bien. » Claire parlait avec volubilité. Robert Marjane ne la quittait pas du regard. En même temps qu'une joie immense le baignait de retrouver sa femme, de la voir si semblable à ce qu'elle était les autres matins, il sentit la colère l'envahir. Mais il se contint. Il n'ignorait pas qu'en lui faisant des reproches, elle s'enfermerait immédiatement dans le mutisme, et ce qu'il désirait avant tout, c'était de savoir ce qu'elle avait fait durant cette nuit interminable. Pourtant, il ne put s'empêcher de demander « Mais qu'as-tu donc fait ?» Sans cesser de sourire, elle répondit « Je vais te le dire, mais attends un petit peu. J'ai besoin de reprendre mes habitudes. Ce n'est pas amusant, tu sais, d'être obligé de passer la nuit chez des amis. Je ne sais pas si cela t'est arrivé, mais ils ont beau tout faire, on est toujours gêné. On ne se sent pas chez soi. Mais est-ce qu'Irène prépare le petit déjeuner? J'ai si mal dormi que j'ai une faim terrible. Viens dans la salle à manger, je te raconterai tout cela. Tu verras comme c'est curieux et triste en même temps. » Jamais Claire n'avait eu un tel accent de franchise, si bien que les soupçons de Robert Marjane ne firent que s'accroître. Il lui sembla étrange que sa femme, qui, d'ordinaire, se souciait si peu de ce qu'il penserait d'elle, s'appliquât avec un tel soin à paraître sincère. « Mais dis-moi donc ce que tu as fait cette nuit en 3 mots. Après, nous n'en parlerons plus. Ce sera fini, enterré. » « En 3 mots, ce n'est pas possible. Il faut que je te raconte tout. Comment veux-tu que je t'explique tout ce qui s'est passé en 3 mots ?»« Mais dis-moi donc seulement où tu as couché. C'est tout ce que je veux savoir. » »« Laisse-moi le temps. Je vais te le dire. Tu sauras tout. » Mais enfin, qu'est-ce que cela peut te faire de me le dire tout de suite ? Ce n'est tout de même pas compliqué. Ce n'est tout de même pas compliqué. Dis-moi simplement où tu as couché. Je n'ai pas besoin de savoir autre chose.
Comme tu me parles, on dirait que j'ai fait je ne sais pas quoi.
Je te demande de me dire simplement où tu as couché.
Je te dirai tout ou rien.
Je te dirai tout ou rien, fit Claire sèchement.
Robert Marjane eut alors l'impression que l'histoire que sa femme projetait de raconter était inventée de toutes pièces et que, comme quand elle se l'était récitée, il était nécessaire, pour qu'elle ne se coupât point, qu'on ne l'interrompît pas.
« Eh bien, dis-moi tout alors. »«
Eh bien, dis-moi tout alors. »«
Maintenant, je te dirai tout puisque tu es raisonnable. »« Je n'ai rien à te cacher. » Tu penses bien que si je voulais mal faire, je m'y prendrais autrement. Je ne suis tout de même pas une enfant. N'est-ce pas, Robert, que je m'y prendrais autrement ?
Elle sourit de nouveau et continua.
Je t'ai dit hier, je crois, en te quittant, que j'allais passer l'après-midi chez Madeleine. J'ai donc été chez elle, comme tu le savais. Elle était toute seule. Une autre jeune fille est venue un peu plus tard, Maude. Est-ce que je t'ai déjà parlé d'elle ?
Il sembla à Robert Marjane que sa femme s'étendait sur tout ce qui était vrai afin que le mensonge se confondît avec le flot de paroles qui l'avait précédé.
« Non, tu ne m'avais jamais parlé d'elle. Qui est-ce ? »
Laisse-moi finir d'abord. Je t'expliquerai après qui est cette jeune fille. »
Claire prononça ces mots sur un ton plus doux. Que son mari eût manifesté de l'intérêt pour un point secondaire de son récit semblait l'avoir rassurée. Pour cette raison, sans doute, ramena-t-elle la conversation sur Maude.
Au fait, je vais te le dire tout de suite. Comme cela, tu comprendras mieux la suite. Cette Maude, c'est la fille d'un Anglais qui habite Paris depuis, je crois, 20 ans. C'est un original. Il adore la France.
Robert Marjane crut deviner que sa femme connaissait réellement cet Anglais et sa fille et que c'était parce que leur originalité l'avait frappée qu'elle les avait placés dans son récit, afin que leur caractère exceptionnel fît passer plus facilement celui de l'histoire compliquée qu'elle se préparait à raconter.
« Mais pourquoi n'es-tu pas rentré ?»«
Attends, je te dis, laisse-moi tout expliquer ou alors je ne dis rien. »
M. Marjane l'encouragea doucement à continuer. Il souffrait tellement à la pensée qu'elle avait passé la nuit avec un homme qui ne demandait qu'à être convaincu du contraire.
Bien sûr que je vais continuer. Nous avons donc bavardé toutes les trois. Tu sais ce que c'est quand nous sommes entre nous. On ne se rend pas compte de l'heure. On parle de robes, de toutes sortes de choses et le temps passe vite. Tout à coup, je m'aperçois qu'il était 6 heures.
À ce moment, Robert Marjane eut l'impression que Claire allait mentir si nettement qu'il crut qu'elle l'avait senti. En effet, elle semblait ne pas oser s'aventurer plus avant dans son récit.
« Je m'aperçois qu'il est 6 heures, répéta-t-elle. Mes amis sont étonnés. Je les quitte enfin et, me souvenant que j'avais une course à faire, je me fais conduire au printemps. »
« Il devait être fermé le printemps. »«
Que tu es agaçant ! Veux-tu me laisser finir, oui ou non ? Tu ne sais pas encore que les grands magasins ferment à 6h30 ?
Mais qu'est-ce que tu voulais acheter de si pressé ?
Ce que je voulais acheter, tu veux le savoir ?
Claire gagna sa chambre et revint un instant après avec un petit paquet qu'elle ouvrit devant son mari. Il contenait une paire de gants.
Tu vois, ce n'est pas bien méchant.
Puis, montrant le papier qui avait enveloppé les gants et sur lequel était imprimé en caractère moderne « Les grands magasins du printemps », elle ajouta
« C'est la preuve.
Enfin, tout cela ne me dit pas où tu as couché. Tu as bien dormi quelque part tout de même.
Si tu m'interromps encore une fois, je te préviens que je ne te dirai plus rien. Tu crois que c'est amusant de raconter tout ce qu'on en a fait ? Tu crois que c'est amusant de raconter tout ce que l'on a fait dans les petits détails ?
Écoute-moi maintenant. Je sors donc du printemps. Il était 6h30 exactement. Je me dis, Robert doit m'attendre, il faut que je me dépêche. Mais au lieu de prendre un taxi devant le magasin, tu sais comme c'est encombré, je serais restée 1 heure sur place. Je vais à pied jusqu'au boulevard Malesherbes. Et c'est à ce moment, comme je me trouvais au coin de la rue du Havre, que je rencontre... Tu ne devinerais jamais qui. Qui crois-tu ?
Je ne sais pas.
Enfin, cherche !
Maude.
Mais non, je t'ai dit tout à l'heure que je l'avais laissée chez Madeleine.
Selon M. Marjane, Claire ne cherchait qu'à donner l'illusion de la vérité. Pour être moins seule devant son mensonge, elle voulait y associer son mari. Mais il était décidé à ne pas se laisser entraîner et ne fit que répondre
« Que veux-tu que je te dise ?
Que veux-tu que je te dise ?»«
Eh bien, je vais te l'apprendre. Je rencontre Olga avec sa mère. »«
Qu'est-ce que tu me racontes ?»
« Tu ne te rappelles plus ? Alors tu n'as pas de mémoire. À Nice, à l'hôtel Beau Séjour. »«
Mais si, je me souviens.
Mais tu ne vas pas me faire croire que tu les as rencontrés comme cela, tout à coup ?»«
Mais tu ne vas pas me faire croire que tu les as rencontrés comme cela, tout à coup. »
Aussitôt après leur mariage, Claire et Robert Marjane avaient fait un long voyage en Italie. À leur retour, ils s'étaient arrêtés une quinzaine de jours à Nice. Dans le même hôtel où ils étaient descendus, Madame Kalinine et sa fille Olga séjournaient. Ils avaient lié connaissance, d'autant plus facilement que, au début, Madame Kalinine avait supposé que M. Marjane était le père de Claire. Celle-ci avait senti, au point de le taquiner, combien flatté avait été son mari, issu d'une famille où il n'avait toujours été question que d'intérêt et de laquelle il avait rêvé toute sa vie de s'échapper, de faire la connaissance de cette Madame Kalinine qui avait été admise à la cour du Tsar, qui faisait partie d'une des plus grandes familles de Russie et qui, à présent, chassée de son pays, s'était réfugiée à Nice. Aussi, l'idée vint-elle immédiatement à Robert Marjane que sa femme, s'étant souvenue de l'admiration qu'il avait eue pour les deux étrangères, avait pensé que, du seul fait qu'elle parlerait de Madame Kalinine, ses soupçons à lui tomberaient.
« Elles sont donc à Paris ? » demanda-t-il.
« Et tout de suite, elles ont voulu que je leur donne de tes nouvelles. » Alors M. Marjane se souvint de cette quinzaine délicieuse qu'il avait passée à Nice, où, seul homme pour ses trois femmes, il les avait conduites au casino, au théâtre, dans l'été et des prévenances que tout le monde avait eues pour lui et de sa fierté et aussi de cette pensée qui lui était venue si souvent. « Si ma famille me voyait !» Mais Claire s'était remise à parler.
« Tu vois d'ici, Robert, comme nous avons été étonnés de nous rencontrer. Tout de suite, il n'a été question que de toi. Elles m'ont demandé 1000 choses, comment tu allais, si tu étais content, si tu m'aimais toujours, si tu me gâtais, si tu n'avais pas changé, enfin, tout ce qu'on peut demander. »
Robert Marjane se souvint encore de cette admiration pour la beauté de Claire qu'il avait lue dans le regard de Madame Kalinine.
« Elle rentrait justement, » continua Claire. « Tu es le premier à comprendre que je ne pouvais pas faire autrement que de les accompagner. » Et en marchant, elles m'ont parlé longuement, avec sincérité, comme si j'étais de leur famille. Et j'ai compris alors beaucoup de choses dont tu ne te doutes pas. Elles m'ont fait jurer de ne rien te dire, mais maintenant qu'elles sont parties et que je ne les reverrai peut-être jamais plus, je te raconterai tout.
Elles sont parties ? demanda Robert Marjane avec anxiété, car une lueur d'espoir lui était venue à l'idée que tout cela était peut-être vrai,
qu'il allait rendre visite dans la journée à Madame Kalinine, que, de sa bouche même, il allait avoir une sorte de confirmation des paroles de sa femme.
« Mais oui !» fit Claire avec une expression étonnée. « Je ne te l'avais pas dit. Si elle n'avait pas dû partir ce matin pour Londres, tu penses bien que j'avais le temps de les revoir et que je ne serais pas restée avec elle jusqu'à présent. »
À ces mots, M. Marjane eut l'impression que tout croulait autour de lui. Tout cela n'était que mensonge. Il en avait la certitude. Il se fit violence, pourtant, afin de ne pas laisser voir son trouble.
« Elles sont parties ? » demanda-t-il de nouveau, sans même s'en rendre compte qu'il parlait.
« Ce matin, le train de Boulogne. Je ne sais pas exactement l'heure, mais tu peux consulter un horaire. »
M. Marjane passa une main sur son front.
« Je ne les verrai pas, alors ?»«
Tu tenais tellement à les voir ?»
fit Claire en simulant d'être jalouse pour le taquiner.
« Mais qu'avez-vous donc fait toute la nuit ?»«
J'allais te le dire tout à l'heure, mais tu m'as interrompu. Tu m'interromps et après tu me reproches de ne pas tout te dire. Je voulais justement tout te raconter. Ce n'est même pas gentil de ma part vis-à-vis d'elle. Si tu avais entendu comme elles m'ont recommandé surtout de ne rien te dire...
Mais pourquoi ne les as-tu pas invitées à la maison ?
Pourquoi ?
Eh bien justement, ce que j'allais te dire répondait à ta question. Tu ne pouvais pas mieux tomber. Tu croyais me tendre un piège et c'est toi qui tombes dedans. Je ne sais pas si tu te le rappelles, à Nice, quand nous les avons connues, elles avaient des bijoux, des fourrures, de vraies fourrures de Sibérie. Eh bien, à ce moment-là déjà, elles vendaient tout cela pour vivre. Je le savais. Elles me l'avaient même dit, mais en me suppliant de le garder pour moi. J'ai tenu parole et je te l'ai toujours caché. Maintenant, ce n'est plus la même chose. Quand je les ai rencontrées hier... tu ne peux pas te figurer comme cela m'a fait de la peine. Ce n'étaient plus les mêmes femmes. Madame Kalinine portait un petit manteau mince, noir, avec un col de lapin, teint en noir aussi. Elle n'avait pas un bijou sur elle, même pas une alliance, et sa fille, la même chose. J'ai, naturellement, fait semblant de ne rien remarquer, mais j'étais gênée. Et elles aussi. Quand elles m'ont parlé de toi, on sentait que leur rire, leur ton enjoué n'était pas naturel, qu'elles essayaient d'être aussi gaies que lorsque nous les avons connues. Tout de suite, après avoir échangé quelques paroles, elles ont voulu me quitter. Alors, c'est là que j'ai compris comme elles se sentaient abandonnées et comme elles souhaitaient que je reste près d'elles, que je dise « Mais non, nous allons parler, nous allons passer la soirée ensemble. » Et c'est ce que j'ai dit. La pensée de les inviter à la maison m'est bienvenue, mais j'ai senti combien leur amour-propre souffrirait de te revoir aussi mal vêtue qu'elles étaient. Alors nous avons marché, et puis, tout à fait naturellement, je leur ai dit que tu étais retenue ce soir chez des amis, et je les ai invitées à dîner. Nous avons bavardé encore après. Comme elles sentaient l'affection que j'avais pour elles, petit à petit, elles ont eu confiance en moi et elles m'ont raconté tout ce qu'elles avaient enduré. J'ai pris un taxi pour les reconduire chez elles et, en cours de route, Olga s'est mise à pleurer. Tout ce que sa mère avait raconté, cela l'avait frappée. Une fois arrivée, je suis montée avec elles dans leur chambre, je les ai réconfortées. On a commandé du thé, on a encore parlé. Et minuit est arrivé comme cela. À ce moment, j'ai voulu te rejoindre. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est, mais quand on a eu beaucoup de chagrin et qu'on a tout raconté à quelqu'un, on veut que cette personne reste près de vous. Si elle part, on se sent après encore plus bas qu'avant. Quand j'ai dit que j'allais te retrouver, si tu les avais vus, Olga a cessé de pleurer et est devenue toute blanche. Madame Kalinine m'a pris la main. Elles n'ont pas dit un mot, mais à leur visage, à tout enfin, j'ai senti que leur détresse leur paraîtrait encore plus grande après que je les aurais quittées.
Alors tu as couché dans leur chambre ?
Je ne me suis même pas couchée. Nous avons parlé tard dans la nuit. Puis je me suis assise dans le fauteuil et j'ai dormi peut-être 3 heures en tout. Le matin, nous sommes partis très tôt pour la gare du Nord. Et je les ai quittés il y a 1 heure à peine.
Tu es resté la nuit dans leur chambre ?
Tu es resté la nuit dans leur chambre, à l'hôtel alors ?
Naturellement, elles sont peut-être restées 2 jours en tout à Paris.
Mais à quel hôtel ?
À l'hôtel, je te dis. Tu connais la rue qui monte à côté de la Trinité ?
La rue de Clichy ?
L'autre.
L'autre.
La rue Blanche ?
Oui, c'est cette rue. Nous y avons passé avec le taxi. Il a monté cette rue, puis il a tourné à...
Nous y avons passé avec le taxi. Il a monté cette rue, puis il a tourné à droite et a pris une autre rue transversale. 100 ou 200 mètres plus loin, il s'est arrêté. Si tu veux, nous irons un jour ensemble en nous promenant. Tu verras, je retrouverai l'hôtel très vite.
Cette fois, Robert Marjane eut la nette impression que le récit de Claire n'était qu'un long mensonge.
Alors, mon Robert, tu ne t'es pas trop ennuyé sans moi ?
Tu as bien dormi ?
Tu vois que ce n'est pas si terrible que tu le supposais.
Avoue-moi que tu as pensé je ne sais pas quoi, que j'avais un amant, que j'avais été au théâtre, puis chez lui, puis que nous avons passé une nuit extraordinaire. Je suis sûre que tu as pensé cela. Tu as eu tort. Dans la vie, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Il y a tellement de choses bizarres, d'événements imprévus.
Robert Marjane ne répondit pas.
Il venait de lui apparaître qu'après tout, ce que lui avait raconté Claire pouvait être vrai. Claire s'approcha de lui et lui prit les mains.
« Tu m'en veux ? » demanda-t-elle.
« Je ne sais pas. Tu me racontes une longue histoire, mais si c'est une invention ?»«
Tu es fou, mon chéri. Comment veux-tu que j'aille inventer une histoire pareille ?
Enfin, mets-toi à ma place. »
Si j'avais menti et que nous rencontrions, par exemple, demain, Madame Kalinine et sa fille. Si j'avais inventé une histoire pareille, je ne vivrais plus. Chaque fois que je sortirais avec toi, je me dirais « On va peut-être les rencontrer et Robert va apprendre que je lui ai menti. » La vie serait intenable. Tu as tout le temps des idées bizarres. Ce n'est pas d'aujourd'hui. »
Monsieur Marjane regarda sa femme tristement, puis d'une voix égale demanda «
Est-elle vraie, cette histoire que tu m'as racontée ?
Est-elle vraie, cette histoire que tu m'as racontée ?
Je te le jure, mon chéri, si je mens, que je meurs à l'instant. »
« Bien, je te crois. »
Il serra sa femme contre lui. Il ne la croyait pas. Il avait la conviction profonde qu'elle avait menti. Mais tout à coup, il lui était apparu qu'il approchait de la vieillesse et qu'il valait mieux que de tout perdre, souffrir silencieusement, pour avoir la joie de vivre près d'elle, pour avoir la joie de vivre près de celle qu'il aimait et qui avait tout de même assez de respect et d'amitié pour lui pour se donner la peine de mentir.